Amen. Je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 18 et au verset 1. Luc 18, 1. Amen. Et comme dans une réunion de prière et qu'on va parler de prière, qu'on va bien faire les choses, on va commencer par remettre ce moment dans la prière. Amen. Oui, merci Seigneur, nous devons remettre beaucoup de choses entre tes mains. Nous devons remettre nos vies entre tes mains, nos cœurs entre tes mains, ce que nous sommes, ce que nous entreprenons, alléluia Seigneur. Et comment ne pas remettre un temps d'enseignement entre tes mains, Seigneur, alléluia, afin que tu puisses librement agir toi-même, t'en saisir toi-même, alléluia, par ton Saint-Esprit, alléluia, pour parler, pour l'utiliser, pour nous toucher personnellement, Seigneur, alléluia, nous relever, nous encourager, parce que tu connais la situation de chacun en particulier avec toute la précision nécessaire. Et tu es le seul à avoir cette connaissance-là, alléluia. Tu es le seul à connaître parfaitement nos besoins, nos épreuves, de quoi nous avons besoin, ce qui peut nous faire du bien. Et tu es encore là aussi ce soir, c'est une promesse de ta part. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia, Seigneur. Merci de cette présence et de ce que tu feras encore ce soir, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà dans l'évangile de Luc, donc, au chapitre 18 et au verset 1, l'histoire de la veuve et du juge inique. Amen. Où il nous est dit, « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. » Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. » Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Une belle histoire. Amen. Voilà. L'histoire qui va nous faire comprendre, à travers la grande leçon qu'elle délivre. C'est quoi la grande leçon qu'elle délivre, cette histoire? L'insistance victorieuse de la veuve, en l'occurrence, dans cette histoire. L'insistance victorieuse, voilà. Après, on parlera de la veuve, pour voir si éventuellement, on ne peut pas avoir des points communs, des différences aussi avec elle, et puis un peu du juge aussi, voilà. Alors, dans cette histoire, on voit qu'il faut user non seulement de prière, mais de cri, c'est le mot que le Seigneur emploie ici lui-même, hein, au verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Qui crient à lui jour et nuit, amen. Il faut user de prière, donc non seulement de prière, mais de cri ou encore de supplication, amen. Voilà, vous voulez un bon cocktail pour être exaucé? Oui? Vous êtes venu pour être exaucé, hein, j'espère. Amen, voilà. Voilà, un bon cocktail pour être exaucé, c'est la persévérance associée à la détermination. La persévérance associée à la détermination, c'est souvent ce qui nous manque, amen. Voilà ce qui est dommage et ce qui nous est rappelé là. Voilà souvent ce qui nous manque. Priez sans cesse, amen. 1 Thessaloniciens 5, 17. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, amen. Éphésiens 6, 18. Un autre passage aussi, c'est dans 1 Chronique 5, versets 18 à 20, je vais vous le citer. Voilà, c'est un passage qui parle de la postérité de certains fils de Jacob. Voilà, Jacob, petit-fils d'Abraham, l'ancêtre du peuple hébreu. Il est dit là, les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, c'est-à-dire les deux tribus ennemies qui avaient reçu en partage des territoires, mais à l'est du Jourdain, avaient de vaillants hommes portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exerçaient à la guerre au nombre de 44 760 en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Jétur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, amen, qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Voilà. Un passage qui dit que, qui sous-entend que s'ils n'avaient pas crié, ben on ne sait pas trop quelle aurait été l'issue de la bataille. Amen. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu. Dans 1 Roi 8, 22 aussi, tout chapitre 8 à partir du verset 22 jusqu'au chapitre 9 au verset 3, il est question de Salomon, Salomon le fils du roi David, donc il va succéder à son père. Il va construire un temple, ce que son père aurait voulu faire en son temps, qu'il n'a pas pu. Et une fois ce temple construit, il va organiser une grande cérémonie pour l'occasion, qu'on appelle une dédicace. Et à cette occasion-là, il va adresser à l'Éternel une longue prière dans laquelle on va trouver 12 fois le mot « supplication ». 12 fois le mot « supplication ». Quand ton peuple se retrouvera dans telle ou telle situation, s'il a péché, s'il revient à toi de tout son cœur, exauce ses prières et ses supplications. Amen. Et ce passage nous dit que Salomon lui-même a adressé à l'Éternel cette prière sous la forme d'une supplication. C'est même le Seigneur qui lui répond à un moment donné, « Voici, j'exauce ta prière et ta supplication. » Amen. Voilà. La persévérance, il en faut quand ? Tout le temps. Amen. Et plutôt quand ça va bien, plutôt quand ça va mal, plutôt. Ah, bonne réponse. Alléluia. Très bonne réponse. Un bon point pour Claudine. Voilà. La persévérance, effectivement, il en faut quand tout va bien, parce que quand tout va bien, il y a quand même certains dangers qui sont là. Voilà. Danger de tomber dans l'habitude, parce qu'on ne voit plus trop ce qui peut nous arriver, nous menacer. L'habitude, dans le sens de la routine, même, on peut perdre de vue l'importance de la vigilance. On peut perdre de vue l'importance de rester dans un état d'esprit de combat. On peut perdre de vue l'état du monde, donc l'amour des âmes et l'importance de l'évangélisation. On peut perdre beaucoup de choses, se refroidir. Amen. Donc, déjà là, il faut de la persévérance. Alors, bien entendu, à plus forte raison, en faut-il aussi quand on traverse une période de difficulté. Amen. Ça vous arrive ? Moi, ça m'arrive, moi. Voire de souffrance, même. Ça arrive aussi. Le Seigneur n'a pas dit qu'on n'aurait jamais de difficulté, jamais de souffrance. Il nous a promis du secours quand on en traverserait. Amen. C'est différent. La persévérance dans la souffrance, ça permet bien plus encore au Seigneur de voir la réalité profonde qui est au fond du cœur. Amen. Plus encore que quand tout va bien, peut-être. Parce que quand tout va mal, on pourrait voilà, dire « Oh, ben si c'est comme ça, la vie chrétienne, ça va bien. » Jusqu'à un certain point, les souffrances et difficultés. On ne va quand même pas non plus aller jusqu'à supporter tant de choses. Il nous faut une solution plus rapidement, même si ce n'est peut-être pas celle que le Seigneur voudrait nous donner. Une solution d'abord, tout de suite. Et puis après, on verra. Ben non, il faut aussi, et le Seigneur va nous demander de faire preuve de persévérance et de détermination quand tout va mal. Voilà. Il y a des hommes qui ont montré leur persévérance dans la parole de Dieu. Combien de temps Abraham a-t-il dû persévérer entre le jour où Dieu lui a promis une postérité et le jour où cette promesse s'est accomplie ? Je dirais une vraie postérité, un vrai fils. Pardon ? Ah non. C'est bien tenté, c'est pas mal. Bon, il a attendu quand même, il n'a pas été obligé d'attendre 40 ans, mais quand même. Il a attendu quand même assez longtemps. Il a attendu 25 ans, voilà, entre Genèse 12, la promesse de la postérité, et Genèse 21, la naissance d'Isaac, de son fils, avec sa vraie femme. Entre-temps, il avait cru que peut-être fallait-il s'y prendre autrement, et voilà, il a eu un fils avec sa servante, ce qui a eu des conséquences encore jusqu'à aujourd'hui, parce que cet homme a été l'ancêtre de plusieurs nations qui ont été des ennemis, qui sont encore aujourd'hui des ennemis du peuple de Dieu. Amen. Et alors, il y en a un autre qui a montré sa persévérance. Lui, alors, dans la souffrance physique et dans la souffrance psychologique. Physique, bon, déjà psychologique, parce qu'un jour, on lui annonce qu'il a perdu tous ses enfants d'un coup, tous ses serviteurs, tous ses troupeaux. Voilà, c'est qui ? C'est Job. La souffrance, parce qu'il va espérer trouver, n'est-ce pas, un réconfort auprès de la seule personne qui lui reste, qui devrait être son premier réconfort, à savoir sa femme, qui a une merveilleuse idée qui lui dit « Tu restes intègre, voilà, et tu continues à louer le Seigneur, mais maudit Dieu et meurs !» Voilà, à mon conseil, hein, pour que ça aille mieux. Et puis juste après, voilà qu'il va être frappé d'un ulcère malin qui va le ronger des pieds à la tête et il ne devait pas être beau à voir. Il ne devait pas être beau à voir du tout. Voilà. Combien de temps a duré sa souffrance et donc la persévérance? Il est cité comme un homme qui a eu de la patience, c'est l'apôtre Jacques qui dira longtemps après, souvenez-vous de la patience de Job et quelle a été sa fin, parce qu'à la fin, il va retrouver, le Seigneur va le guérir entièrement, complètement, lui redonner autant d'enfants qu'avant, voilà, et lui redonner des richesses, et voilà, amen. Combien de temps a souffert Job? Elle a duré combien de temps, sa maladie? Vous souvenez combien de temps elle a duré? Ah, je vais vous proposer des réponses, voilà, on va voir un petit peu si vous savez. Alors, première réponse possible, sa souffrance a duré 3 jours, parce que 3 jours, ce n'est pas un chiffre comme les autres dans la Bible. Deuxième réponse possible, sa souffrance a duré 7 jours, parce que 7 jours, ce n'est pas non plus un chiffre comme les autres, c'est le chiffre parfait. Troisième réponse possible, 3 semaines, je crois à cause du chiffre 3. Quatrième réponse possible, 7 semaines. Cinquième réponse possible, la Bible ne donne aucune précision sur la durée de sa souffrance. Et vous avez droit encore aussi à une sixième réponse, autre. Mais alors là, il faut me dire laquelle. Alors, 3 jours, 7 jours, 3 semaines, 7 semaines, aucune précision n'est donnée dans la Bible ou autre. Qui dit 3 jours? Oh, vous êtes très bien. Qui dit 7 jours? Oh, ça, c'est très... Tout est 40 ans avec Flavien. 3 semaines, non? T'as 3 semaines à l'ulcère malin qui vous ronge la tête aux pieds. Alors, 7 semaines non plus. Ah, 7 semaines, dit Sylvie. Il n'y a que Sylvie qui dit 7 semaines. Voilà. Donc, aucune précision, dit Claudine. Voilà. Aucune précision. Qui dit aucune précision n'est mise dans la Bible? Aucune précision, aucune précision, aucune précision, aucune précision, aucune précision, aucune précision. Qui dit autre réponse? Dommage, c'est ça la bonne réponse. Non, ce n'est pas 40. Il y a une petite précision seulement à ma connaissance dans tout le livre de Job et dans toute la parole de Dieu. C'est dans le livre de Job lui-même, au chapitre 7 et au verset 3, où il dit quand même, « J'ai pour partage des mois de douleur. » Des mois de douleur. Vous vous rendez compte, des mois? C'est-à-dire, je pense qu'il dormait plus beaucoup de force quand il était vraiment trop fatigué, parce que quand vous avez la peau attaquée, rongée, des pieds à la tête, et puis voilà, pour calmer la douleur, il dit qu'il se grattait un petit peu avec ce qu'il trouvait, voilà. Il y a de quoi quand même désespérer, surtout quand on est un homme comme Job. C'est un homme dont il est dit, dans la parole de Dieu, qu'avant qu'il soit malade, quand il arrivait dans un endroit où on se taisait, on s'écartait, on lui préparait une place. Et quand il raconte ça avec aucun orgueil, simplement parce que c'était la réalité. On savait le privilège que c'était de pouvoir entendre Job parler de Dieu. Donc on l'écoutait attentivement et voilà, c'était quelqu'un, quoi. Et il ne s'en vante aucunement, hein. Il dit voilà, quand j'allais parler, on m'écoutait, et il faisait du bien à tous ceux à qui il pouvait avec ses richesses, aux malades, à la veuve, voilà. Et dans sa souffrance, il regrette ce temps-là, mais qui va revenir à la fin. Amen. Je ne pense pas qu'on a souffert comme Job, voilà des exemples de persévérance et de souffrance. Alors il y a cette veuve, elle est veuve, donc plus son mari pour la défendre. Qui pour l'aider dans cette histoire? Personne, bonne réponse. Elle ne compte que sur elle. Peut-être que vous n'avez plus personne pour vous aider aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais ça arrive. Alors, vous avez bien fait de venir. Amen. Vous avez bien fait de venir parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, le Seigneur nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Donc, nous sommes tous ensemble déjà assemblés pour faire valoir nos besoins ensemble à Dieu. C'est comme dans une entreprise. Vous allez demander quelque chose à votre patron. Si vous demandez ça en passant 5 secondes et puis vous repartez, si vous y allez tous ensemble et vous êtes là une heure et que vous dites tant que tu ne nous accordes pas ça, on s'en va pas, ça pèse plus lourd en principe. Il y en a qui savent ça, les syndicalistes, ils savent ça. Voilà. C'est un exemple, hein. C'est un exemple, c'est pour nous aider à comprendre. Voilà. Alors nous, on est ensemble et en plus, on a le Seigneur au milieu de nous, donc on a des bonnes raisons d'espérer. Amen. Cette veuve, voilà. Elle ne compte que sur la justesse de sa cause. Elle dit, je suis dans mon droit, il n'y a pas de raison que ce juge ne me fasse pas justice. C'est tout. Elle compte que sur la justesse de sa cause. Nous, on compte sur autre chose que la justesse de notre cause. Parce que si on avait que ça pour compter et exiger quelque chose de Dieu, il pourrait nous dire, Je ne te dois rien, tu ne mérites rien. Voilà. Nous, on compte sur la miséricorde de Dieu. Amen. On compte sur la grâce de Dieu. Amen. On compte sur les promesses de Dieu. Amen. Voilà sur quoi on compte. Et si cette veuve a eu gain de cause de la part de quelqu'un qui n'avait ni miséricorde, ni grâce, ni de promesse pour elle, puis en plus, à mon avis, s'il y a un métier qu'il ne fallait pas qu'il fasse, c'était celui de juge. Non, parce que quand on voit comment il était, c'est grave d'être juge comme ça, vous savez. Parce que quand les gens n'ont plus affaire qu'à des juges comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun souci de la justice, mais ça peut aller loin. Ça peut aller, quand tout le monde prend conscience que le pays est comme ça, ça peut aller jusqu'à des troubles sociaux dont on ne vient plus à bout, du chaos, je sais pas moi, la chute d'un régime, la révolte, la révolution. Avec des juges comme ça, c'est tout ce qu'il faut. Parce que la justice, c'est la base. Dans un peuple, c'est la base. Quand tout le monde est convaincu qu'il n'y a plus de justice, alors là, on n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin. Et avec un juge comme ça, voilà. Nous, on ne compte pas sur la justesse de notre cause, à la limite. Hein. Le Seigneur nous montrait déjà, il dit, attends de venir, avant de venir me demander quelque chose, je vais te montrer tout ce qui ne va pas. Et puis après, on verra, on n'aurait pas grand-chose à espérer. Mais on est un Dieu de miséricorde, de grâce et qui nous a fait des promesses. Qu'est-ce qu'on voit encore cette veuve? Elle ne connaît visiblement pas Dieu. Elle ne s'appuie pas sur le Seigneur dans son histoire. Hein. Elle y va toute seule, elle revient jusqu'à temps qu'il craque. Quoi. Hein, c'est comme ça. Elle ne connaît pas spécialement Dieu, apparemment, elle ne compte pas sur son Dieu. Elle n'intercède que par des moyens humains. Avec quels moyens nous luttons? Avec quels moyens est-ce que nous luttons, nous? On est invité à intercéder par l'Esprit. Hein. Dans les versets de départ, je vous ai cité Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Et là, il y a un E majuscule. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand on va s'en servir pour aller demander quelque chose au Seigneur, ça va être quelque chose. Amen. Ça va être différent. Mais comment intercéder par l'Esprit, vous me direz? Voilà. Comment intercéder par l'Esprit? La veuve, donc elle est veuve. Veuve, c'est synonyme de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue veuve? Ou qu'est-ce qui fait qu'on devient veuf? Qu'est-ce qui frappe à un moment donné pour qu'on devienne veuf? Qu'est-ce qui frappe? Qu'est-ce qui a frappé? La mort. On est bien d'accord. Vous êtes veuve parce que la mort a frappé, vous n'avez plus votre mari, ou vous êtes veuve parce que la mort a frappé, vous n'avez plus votre femme. Donc ici, la mort a frappé, elle lui a enlevé son époux. Son époux n'est plus à ses côtés. Est-ce qu'il est mort sauvé ou perdu? On n'en sait rien dans l'histoire. Il n'y a pas de précision à ce sujet dans l'histoire, mais il a forcément poursuivi son parcours, soit dans le lieu réservé aux âmes sauvées, soit dans celui réservé aux âmes perdues. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit que ces deux-là. Voilà, contrairement à ce qu'on peut peut-être entendre, il n'y a pas d'autre endroit. Voilà, donc la mort a coupé leur relation et a plongé la veuve dans la solitude. Quand on dit on est mort, en fait, on est encore quelque part. Voilà, on est forcément quelque part. Mais voilà, la relation a donc été coupée. Voilà la veuve dans la solitude. Et d'un point de vue spirituel, nous entrons tous dans la vie en position de veuf ou de veuve. Nous entrons tous dans la vie en position de veuf ou de veuve. À cause du péché, nous dit la parole, qui est entré dès le départ dans l'être humain et dans ce monde, se transmettant ensuite de génération en génération, et avec lui la mort spirituelle qui nous a coupés, nous aussi, de Dieu. Amen. Romains 3, 12 dit... C'est pas Romains 3, 12 d'abord, c'est Romains 3, 22. Je me suis trompé dans ma référence. On va le lire d'ailleurs. Romains, Épître aux Romains, chapitre 3, versets 22 et 23. J'y arrive, j'ai jamais été si près des buts. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, c'est 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, vous vous demandez pourquoi dans votre vie, Dieu n'a jamais rien fait, peut-être jusqu'ici, on n'avait jamais rien vu de spécial, alors est-ce bien vrai que pour d'autres, il a fait? Voilà la raison. On est comme cette veuve, on est coupé dans notre relation, amen. On est coupé dans notre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur soit mort, lui, c'est plutôt nous qui serions morts. Mais voilà, c'est un problème de relation coupée. Et nous aussi, nous devons aller vers notre juge, comme cette veuve. Mais nous, on a un autre juge, heureusement. On a un juge qui est le juge suprême, qui est notre Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on aille vers lui, nous? pour qu'il nous fasse justice aussi. Nous aussi, on a besoin d'aller vers notre juge pour qu'il nous fasse justice. Amen. Mais non pas, premièrement, dans un différend avec un tel ou un tel, avec votre employeur. Je ne sais pas si vous avez un différend avec quelqu'un ce soir, avec l'administration, peut-être, ça peut arriver, avec un marchand, ceci ou cela. On peut avoir un différend avec des tas de gens. Mais ce n'est pas forcément ça qui doit nous importer en premier. On doit aller vers notre juge pour qu'il nous fasse justice, c'est-à-dire pour qu'il nous justifie, nous. Amen. Nous, on va y aller pour qu'il nous justifie, nous. Amen. Pour qu'il nous rende juste. Amen. Qu'il règle lui-même notre différend avec lui. Amen. Pourquoi est-ce que nous venons dans la maison du Seigneur? Est-ce que le Seigneur ne nous a pas demandé d'y venir? Amen. Vous n'êtes pas convaincu. Si, le Seigneur nous demande d'y venir. Est-ce qu'il faut chercher le royaume de Dieu aussi? Oui. Il ne faut pas le chercher premièrement? Si. Si. Et quoi d'autre avec? Et sa justice, amen. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, amen. Parce qu'on pourrait être tenté de chercher le royaume de Dieu, d'être là au milieu des croyants, de vivre au milieu des croyants, parce que c'est un lieu de bénédiction, parce que la maison de Dieu, c'est un lieu de bénédiction. Et puis, à la limite, ça nous suffit, quoi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu parce que vous serez bénis. Mais ce n'est pas ce que dit le Seigneur. Il cherchait premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice, c'est ça en premier qu'il faut chercher, voilà. C'est cette justice-là qu'il nous faut chercher en premier. Est-ce que c'est ça qu'on a cherché en premier jusqu'ici? Ou est-ce que c'est juste la bénédiction jusqu'ici? Amen. Et pour ça aussi, on doit user de détermination comme cette veuve, amen. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est forcé, ce sont les qui s'en emparent. Et c'est mis dans... Ah, c'est autre chose. Ah, on fait le malin quand on a préparé, on a eu le temps de chercher la référence. C'est dans l'évangile de Matthieu, entre autres, dans le chapitre 11 et le verset 12. Ou encore, pourquoi faut-il se faire violence? Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses terres, à ses maisons, et même à sa propre vie. Et même à sa propre vie. Et je vais vous dire, c'est souvent à la fin de liste, à la dernière étape, qui pose le problème aux croyants et qui les prive du ciel. Parce que sans me préférer à son père ou à sa mère, qu'est-ce que vous voulez? On vous parle du Seigneur. Peut-être que vous n'avez plus votre père et votre mère. Peut-être que ça fait un moment que vous vivez votre vie qui ne vous empêche pas d'aller où vous voulez. Ce n'est pas forcément un gros combat de préférer le Seigneur à son père ou à sa mère. Sans me préférer à sa femme ou à ses enfants, peut-être que vous n'avez pas encore de femme et d'enfants, vous en avez eu, vous n'en avez plus. Ce n'est pas forcément un gros combat non plus. Ces terres ou ces maisons, il y en a qui n'ont ni l'un ni l'autre, pardon. Moi, j'ai ni terre ni maison. Ce n'est pas un grand combat non plus. Sauf que tout le monde est obligé de passer par la dernière étape où il dit « et même à sa propre vie ». Alors là, on a tous une propre vie en principe. Et souvent, on vient au Seigneur. Moi, en tout cas, je ne suis pas venu parmi les belles âmes, ce qu'on appelle les belles âmes, qui cherchent le Seigneur pour le Seigneur premièrement. Moi, je suis venu chercher une solution à ma situation. Puis après, continuer ma vie. Je n'avais pas des grands projets. Hein, mais voilà. On m'a dit que je pouvais venir, que Dieu pouvait me trouver une solution. Je suis venu. Voilà. Et voilà que le Seigneur, lui, il dit aussi, sans me préférer à sa propre vie. Amen. Et là, c'est un combat pour tout le monde. Parce que souvent, on vient et puis après, on veut essayer de composer, quoi. Ah, on ne va pas avoir une vie que sans le Seigneur. On va avoir une vie avec le Seigneur quand même dedans. D'ailleurs, on en a besoin, donc on serait idiot de s'en priver. Mais voilà, on va composer, on va mettre un peu de choses que quand même, il faut vivre, quoi. Hein, des choses du monde qu'on va garder. Et on va essayer de composer. Puis peut-être la vie spirituelle, à un moment donné, elle va plus être ce qu'on espérait. Peut-être la bénédiction va plus être là. Puis au fil du temps, voilà, c'est parce qu'on n'a peut-être pas préféré le Seigneur à sa propre vie. Amen. Est-ce que vous avez préféré le Seigneur avant votre propre vie? Amen. C'est pas un piège. Hein. C'est pas un piège et on croit souvent que ça va être plus mal, et on se trompe lourdement, parce que c'est là qu'on a la plénitude des bénédictions de Dieu, des promesses de Dieu, amen. Parce que la vie que Dieu nous donne, elle ne sera pas plus mauvaise que celle que le monde vous donnera, c'est pas vrai. Nous, on pense que il faut laisser certaines choses du monde, souvent, pour que la vie avec le Seigneur soit pas trop... Non, c'est ça, c'est une erreur grave. C'est quand on donne tout au Seigneur qu'on a toute la promesse, amen. C'est logique. Amen. Voilà en quoi il faut se faire violence. Et donc, qu'est-ce que c'est cette justice? C'est rétablir comme il se doit cette relation avec le Seigneur pour ne plus être veuf, ne plus être veuve, mais entrer dans l'Église, la véritable Église. Il y a plusieurs définitions à l'Église. Il y en a au moins trois. Il y a déjà le bâtiment, voilà. Après, il y a tous les gens qui viennent, quels qu'ils soient, l'être à l'Église d'eux, voilà, c'est destiné à tout le monde. Et puis, il y a l'Église dans le sens spirituel, celle que le Seigneur prendra avec lui quand il reviendra en un instant, en un clin d'œil, voilà. C'est l'ensemble des véritables croyants. Et ça, c'est, il n'y a que le Seigneur qui connaît les limites exactes à l'âme près de sa véritable Église. Et donc, il faut, à travers cette justification, qu'on entre non seulement dans le bâtiment, non seulement au milieu des gens, mais dans cette Église-là. Pourquoi ? Parce que cette Église-là, elle est appelée la veuve du Seigneur, l'épouse du Seigneur. Amen. Voilà, il faut qu'on retourne d'un statut de veuve à un statut d'épouse. Amen. Et voilà pourquoi il faut qu'on aille vers notre juge pour être justifié. Amen. Et alors, on peut cette fois faire par l'Esprit qu'on va recevoir, l'Esprit de Dieu que le Seigneur va nous accorder. Là, on va pouvoir faire des prières par l'Esprit. Amen. Et là, ça va être autre chose, nos prières. On va plus être sous le coup de Jacques 4, 2 et 3. Vous connaissez Jacques 4, 2 et 3 ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà toutes les mauvaises prières. Être dans la convoitise, si vous êtes dans la convoitise, ne priez même pas le Seigneur pour qu'il vous donne ce que vous convoitez depuis je ne sais pas combien de temps, ce n'est pas la peine. Voilà, vous êtes meurtrier envieux, ça ne veut pas forcément dire vous avez un revolver dans la poche. Hein. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors on peut tuer avec la langue. Mais quiconque l'aime en mangera les fruits, voilà, il faudra assumer. Voilà, on peut être meurtrier par la langue, voilà, on peut être constamment dans des paroles meurtrières, même envers les frères et sœurs parfois, ou en dehors, hein, ou en dehors, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Comment ça se fait, vous ne demandez pas ? Parce qu'on ne demande pas ce qu'il faut, voilà. On ne demande pas la paix, on ne demande pas que le Seigneur enlève le feu qui est en nous pour être débarrassé d'un sentiment d'injustice, de la haine, d'un sentiment de vengeance, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai une nature qui... Je suis plutôt comme ça. Quoi. Je sais qu'il faut que j'en fasse un sujet de prière. Voilà ce qu'il faut demander. Voilà ce que vous demandez, la paix dans ces cas-là. Voilà, vous avez des querelles et des luttes. Il faut demander la paix au Seigneur. Il faut demander qu'il nous purge, je dirais. Amen, qu'il fasse sortir ça, parce que tant que ce ne sera pas sorti, ça ne nous permettra pas de rester en paix avec le Seigneur. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia, le Seigneur ne peut pas répondre à une prière qui vise à satisfaire notre passion. Amen. Voilà toutes sortes de mauvaises prières. Mais une fois qu'on aura l'Esprit du Seigneur, alors on ne sera plus dans ces mauvaises prières. On sera dans quoi ? On sera dans 1 Jean 3:8. Vous connaissez 1 Jean 3:8 ? Ah, il faut le connaître par cœur. Quoi que ce soit que nous demandions, là, si vous allez nous dire la suite, nous le recevons de lui parce que... Ah, c'est bien. Avant, nous gardons ses commandements. Mais c'est vrai, l'important, c'est la fin. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ce n'est pas garder ses commandements de manière forcée, subie, passive, entrer dans les pieds. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ça veut dire qu'on va aller plus loin que même peut-être qu'un certain nombre de commandements. Vous me direz, le premier et le plus grand, c'est 1, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, toutes tes forces. Amen. Voilà, on sera dans 1 Jean 3:8, pardon. On sera dans 1 Jean 5:14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, voilà ce que l'Esprit va faire en nous. Il va nous faire demander des choses selon la volonté du Seigneur. Ce sera une garantie pour les recevoir. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons. C'est même pas mis, nous posséderons. Nous possédons déjà la chose, quelle qu'elle soit. Amen. Seulement, voilà, il faut qu'on parle un petit peu aussi du juge. C'est moins... Mais il est là quand même, le juge. Veillons à ne pas ressembler au juge. Veillons à ne pas ressembler au juge. Déjà, le Seigneur Jésus nous adresse cette histoire parce qu'il sait qu'on ne ressemble pas assez ou pas assez souvent à cette veuve. On est bien d'accord, c'est pour ça qu'elle est là, cette histoire. Mais si en plus de ne pas ressembler à cette veuve, on ressemble au juge, on pourra toujours s'acharner dans la prière. Hein. Ce sera un acharnement charnel, mais on va vite se lasser. Alors vous allez me dire, comment ça ressemble à ce juge? Un juge inique? Pourquoi est-ce qu'il était inique d'ailleurs? Seigneur Jésus dit d'entrée de jeu, hein, c'est lui qui donne la définition, il dit. Voilà, c'est un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Voilà. Bon. Quel est le plus grand commandement? On vient d'en parler. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Jésus ajoute, et ton prochain comme toi-même. Voilà. Et il nous dit encore le Seigneur dans Proverbe 28, verset 14, heureux l'homme qui est continuellement, dans la crainte. Ça ne rend pas heureux, ça, la crainte. Comment on peut être heureux tout le temps dans la crainte? À tous les jours, à craindre qu'un jugement nous tombe dessus, ça ne peut pas rendre heureux, ça. Voilà, il y a cette crainte-là, puis il y a la bonne crainte. La crainte de décevoir le Seigneur, la crainte de ne pas être à la hauteur de ce qu'il attendait dans une circonstance précise. La peur de le blesser, peut-être, rien que par une pensée qu'on a acceptée, une parole, un comportement, une absence, une omission, une négligence. Et puis derrière, voilà, trop tard. On voudrait reculer dans le temps juste de quelques minutes. Et trop tard, on n'a pas fait, on a fait ce qu'il ne fallait pas. Et on n'est pas bien, voilà, on n'est plus bien. Est-ce qu'on marche au quotidien dans cette crainte-là? La parole de Dieu, elle nous invite à examiner nos cœurs. Vous examinez vos cœurs de temps en temps? Amen. C'est indispensable. Voilà, puis un autre passage encore, pour ne pas ressembler à ce juge qui, justement, lui, ne craignait point Dieu. Du tout. C'est Ézéchiel 33, verset 1. On va le lire ensemble, c'est notre dernier passage. C'est un passage important qu'il faut connaître. Parce qu'on peut se mettre à marcher sans connaître Ézéchiel 33, 1. Et ça, c'est grave. Allez-y, tournez les pages de vos Bibles. Ou cherchez-la au bon endroit sur votre smartphone. Ézéchiel 33, 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Je redemanderai son sang à la sentinelle. Voilà, si on n'a pas vraiment à cœur ce passage-là de la parole de Dieu qui nous parle d'avertir, de parler au monde qui ne connaît pas le Seigneur. Si nous négligeons ce passage-là et qu'on ferme les yeux sur l'état du monde et qu'on ne fait pas notre part de travail pour aller porter au monde ce que le Seigneur nous a donné à nous, amen, alors que nous pourrions le faire, il faut pouvoir le faire évidemment, alors, et si on n'a pas non plus vraiment à cœur ce plus grand commandement, ni ce verset qui nous dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte », est-ce qu'on ne ressemble pas finalement plutôt au juge qu'à la veuve, qui justement ne craignait point Dieu et n'avait d'égard pour personne? Amen. Amen. Voilà, Seigneur, merci de bénir encore ces paroles, de la mettre dans nos cœurs, de faire en sorte qu'on puisse s'en souvenir, la garder dans nos cœurs. Amen. Alléluia, Seigneur. Qu'elle nous reprenne, qu'elle nous aide peut-être à changer ce qui ne va pas dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, c'est toi encore une fois qui vois dans les cœurs. C'est toi seul qui peux faire ce travail indispensable dans les cœurs, alléluia, oh, qui consiste, Seigneur, à reprendre, à travailler le cœur pour l'amener jusqu'à toi, pour le faire passer de la mort à la vie, alléluia. Amen, Seigneur, tu sais encore une fois ce dont chacun a besoin ce soir, alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu de la bénédiction, tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu demeures le même, tu veux faire les mêmes choses qu'en ton temps, alléluia. Tu veux être le Dieu qui guérit encore, le Dieu qui délivre parce que tu es le Dieu des délivrances. Tu veux être notre bon berger afin que nous ne manquions de rien, c'est mis dans ta parole. Tu veux pouvoir à tous nos besoins, Seigneur, tu veux pouvoir te glorifier dans nos vies. Fais encore ces choses ce soir, Seigneur mon Dieu. Amen, amen, alléluia.
Amen. Alors, je vous rappelle simplement que nous avons la prédication du vendredi soir, donc en ligne toujours pour l'évangélisation en particulier. Nous avons repris l'évangélisation dans les villages le samedi après-midi à 14h30. Donc, voilà, ça doit se dérouler ce samedi-ci. Le culte aussi, le dimanche à l'église, ici à 8h30 et à 10h45. N'oubliez pas de vous inscrire, si possible, le plus tôt possible. Merci pour y participer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à son beau nom. Amen. Alléluia.